Le MAG de l'urbanisme, de l'aménagement et du logement, une émission en partenariat avec les ministères de la transition écologique et de la cohésion des territoires sur Radio Territoria.
Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro du MAG de l'urbanisme, de l'aménagement et du logement, toujours sur Radio Territoria. Et aujourd'hui, eh bien, je suis à nouveau bien entourée hein, pour un sujet qui, je suis sûre, va vous passionner. Je vais vous le dévoiler dans quelques instants, le temps de saluer tous ceux qui sont avec moi sur ce plateau. D'abord, celle qui est indissociable de cette émission, Michel Félep. Bonjour Michel.
Bonjour Johanna.
Je rappelle que vous êtes chargée de mission animation territoriale à la DGALN et vous répondrez avec nous aux questions de nos auditeurs en fin d'émission. D'ailleurs, j'en profite hein, pour vous rappeler à vous, chers auditeurs, que vous pouvez nous poser vos questions à tout moment dans le chat. Nos invités y répondront en fin d'émission. Nos invités que nous allons désormais saluer. D'abord, Naïla Boukeloua, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes adjointe au sous-directeur de la qualité du cadre de vie à la direction chargée de l'urbanisme à la DGALN. Et à vos côtés, on accueille Yves Joncheret. Bonjour Yves.
Bonjour Johanna.
Vous êtes vous adjoint à la chef du bureau de la législation de l'urbanisme dans la même sous-direction, la DGALN. Et aujourd'hui, eh bien, on va saisir l'occasion hein, d'une précédente émission sur Radio Territoria. C'était le 7 juillet 2020 pour ceux qui nous suivent et qui veulent réentendre cette émission. Elle est évidemment disponible en podcast sur le site de Radio Territoria. Alors, à l'occasion de cette émission, donc, Vincent Montrieux, le sous-directeur de la qualité du cadre de vie à la DHUP, était venu nous présenter les deux ordonnances du 17 juin 2020 de modernisation des SCOT. Les SCOT, ce sont les schémas de cohérence territoriale et de rationalisation de la hiérarchie des normes. Deux ordonnances qui avaient été prises en application d'une habilitation législative figurant dans la loi Elan de 2018. Il nous avait alors expliqué que l'ordonnance de rationalisation de la hiérarchie des normes avait attribué un statut législatif à la note d'enjeu, outil de dialogue entre l'État et les collectivités territoriales, qui avait été présenté rapidement parmi les autres apports de ces deux ordonnances. Et aujourd'hui donc, eh bien, un peu plus d'un an après cette émission, nous sommes en phase de mise en œuvre de cette ordonnance, entrée en vigueur le 1er avril 2021, donc le 1er avril de cette année, et il est temps de revenir sur l'objet note d'enjeu pour mieux l'appréhender et présenter les outils élaborés par la DHUP pour aider à sa réalisation. Alors ça a l'air un peu opaque, mais vous allez voir, ça va l'être un petit peu moins d'ici une vingtaine de minutes avec nos deux invités. C'est parti pour la thématique du jour.
Le MAG de l'urbanisme, de l'aménagement et du logement, la thématique du MAG.
Alors je vais commencer par me tourner vers vous, Naïla. D'où est venue l'idée de cette note d'enjeu ?
Alors, en fait, la note d'enjeu est déjà pratiquée de longue date, sous diverses formes ou toutes sortes de dénominations, par les DDTM, les directions départementales des territoires et de la mer, voire par les DREAL, les directions régionales de l'environnement, de l'aménagement et du logement. Ce sont les services déconcentrés de l'État. On évoque cette pratique dans le rapport du Conseil général de l'environnement et du développement durable, le CGEDD, dès mai 2013. Ce rapport était intitulé « Qualité du dire de l'État au regard des enjeux du Grenelle dans les domaines de la planification spatiale, du logement et des transports », ainsi que dans son rapport d'avril 2017 intitulé « Quelles évolutions pour le schéma de cohérence territoriale ». Dans ces rapports, cet outil, est présenté comme concrétisant un effort de transversalité engagé par les services déconcentrés à l'occasion de leur association au document de planification. Ou encore, elle est aussi présentée comme matérialisant une vision partagée du territoire et des enjeux qui le concernent. On y trouve aussi le fait que cette note d'enjeu développe un discours pédagogique et argumenté, et non un rappel dit comminatoire des obligations des règlements. C'est un peu par opposition au PAC, le porté à connaissance de l'État. Enfin, elle est assez valorisée puisqu'elle est présentée comme renforçant le dialogue entre l'État et les collectivités en matière de planification. Donc, que de vertus, et il s'est avéré qu'elle a été assez plébiscitée lorsque la DHUP a travaillé à l'élaboration de l'ordonnance relative à la hiérarchie des normes applicables aux documents d'urbanisme qui étaient prévus par la loi Elan.
Yves, est-ce qu'on peut en savoir un peu plus sur la démarche que vous avez suivie pour l'élaboration de cette ordonnance et la façon dont la note d'enjeu a été à l'époque plébiscitée ?
Alors rappelons que nous avons eu toute une démarche participative volontaire pour recueillir les besoins des collectivités, des bureaux d'études, enfin de l'ensemble des usagers des documents d'urbanisme, enfin le terme d'usager, les porteurs de documents d'urbanisme. Le fil rouge pour nous dans cette ordonnance, enfin dans ces ordonnances, c'était vraiment de se mettre à la place du porteur du document d'urbanisme et de faciliter son travail. Donc on a eu volontairement la DHUP à élaborer cette ordonnance, ainsi que celle qui était aussi prévue par la loi Elan en matière d'urbanisme, donc relative aux schémas d'aménagement régionaux et aux schémas de cohérence territoriale. On s'est appuyé sur un processus de concertation participative pendant les années 2019-2020. Surtout 2019, peut-être certains de nos auditeurs se souviennent du site Planifions nos territoires ensemble, qui est toujours en ligne, qui avait été lancé à cette époque, qui avait recueilli des centaines de contributions, donc qui est toujours actif. On nous en parlera un petit peu plus tard de ce site Planifions nos territoires ensemble. Et il y avait également eu des ateliers en région. Nous avions mené 4 ateliers thématiques en intelligence collective et 2 ateliers de prototypage en association avec la Fabrique à Projet, donc une structure de nos ministères, et auxquels ont participé des représentants des services de l'État, administration centrale comme services déconcentrés, des représentants des collectivités territoriales, porteurs de PLU et de SCOT, et aussi des porteurs de documents supra, donc de documents opposables, les différents documents opposables aux documents d'urbanisme. Et pendant cette concertation, donc ces différents ateliers, de manière récurrente, répétée, le sujet de la note d'enjeu, la pratique des notes d'enjeu qui était déjà présente dans de nombreux départements, a été relevé comme très apprécié, non seulement par les représentants des collectivités donc qui en bénéficient, mais aussi par les directions des territoires et de la mer qui en réalisent. Ces directions départementales y voient un exercice qualitatif, stimulant, d'appropriation du territoire, à la différence du porté à connaissance, qui devient progressivement numérique et qui est la transmission de données brutes à la collectivité qui se lance dans l'élaboration d'un document d'urbanisme. Et puis pour les collectivités, c'est un élément de simplification lorsqu'ils élaborent leurs documents d'urbanisme, parce que cette note d'enjeu favorise l'intelligibilité des politiques publiques, et plutôt que d'être perdu face aux milliers de pages des documents opposables aux documents d'urbanisme, elle leur permet, dans un document synthétique, de voir quels sont les enjeux qui semblent prioritaires aux services déconcentrés. C'est aussi une unicité de la parole de l'État, tout en demeurant non contraignante. C'est un outil assez souple de portage des politiques publiques sans contrainte. C'est donc un processus de bottom-up, donc on a recueilli les souhaits des territoires, et qu'on peut souligner parce que c'est au-delà de ça, c'est quand même une évolution de la position de l'État aussi auprès des collectivités. On est plus là pour accompagner les collectivités plutôt que uniquement un État qui est dans le contrôle. Donc la note d'enjeu s'est vue attribuer un statut législatif par l'ordonnance du 17 juin 2020 dans certaines conditions. Donc cette ordonnance qui est relative à la rationalisation de la hiérarchie des normes applicables aux documents d'urbanisme.
Donc si je comprends bien, il existe un nouveau cadre juridique pour cette note d'enjeu. Naïla, quel est-il et surtout a-t-il des conséquences sur les pratiques actuelles ?
Alors ce qu'on peut dire sur cette question en quelques points saillants, en premier lieu, il dit simplement la note d'enjeu consiste pour le représentant de l'État dans le département à transmettre à un porteur de documents d'urbanisme un exposé des enjeux qu'il identifie sur le territoire et que le document est appelé à traduire. Donc c'est un peu l'objectif de cette note. En deuxième lieu, et en application du nouvel article L132-4-1 du Code de l'urbanisme, qui a été créé par l'ordonnance de rationalisation de la hiérarchie des normes, la rédaction d'une note d'enjeu est désormais obligatoire, elle n'est d'ailleurs désormais obligatoire, que lorsqu'un porteur de SCOT ou, en l'absence de SCOT, un porteur de PLUI, de plan local d'urbanisme intercommunal, en fait la demande. Et ce, à l'occasion soit de l'élaboration, soit de la révision de son document d'urbanisme. Et dernière condition, lorsque cette élaboration ou cette révision est engagée à compter du 1er avril 2021. Donc en dehors de ces cas qui sont très circonscrits, on n'est pas dans un processus d'obligation. Rien n'interdit donc à une DDTM, une direction départementale des territoires et de la mer, de produire à son initiative une note d'enjeu pour d'autres documents, notamment pour des PLU ou pour des PLUi en présence dans un territoire où il y a déjà un SCOT, par exemple, ou pour d'autres procédures, notamment pour une modification de ces documents. Rien n'interdit non plus aux porteurs de ces documents, dans ces mêmes hypothèses qui ne sont pas prévues par le Code de l'urbanisme, de demander à l'État la production d'une note d'enjeu. La DDTM, elle sera alors pas tenue d'y déférer, mais elle aura la faculté d'y faire droit si les circonstances locales l'y incitent. Donc, les pratiques antérieures ne sont absolument pas remises en cause par l'ordonnance. Et quelque chose de très très important sur quoi je veux insister, c'est que dans tous les cas, que la note d'enjeu soit produite en application du Code de l'urbanisme, comme je viens de l'énoncer, ou en dehors de ce cadre juridique, donc dans le cadre d'une initiative d'une des DTM, elle reste dans tous les cas un outil de dialogue sans aucun effet juridique. C'est très important. Elle n'a pas vocation à constituer un acte de procédure de l'élaboration du document d'urbanisme. Elle n'est censée avoir aucune portée juridique contraignante vis-à-vis du porteur de documents d'urbanisme, mais aussi vis-à-vis de l'autorité de l'État, au stade, notamment lorsqu'il rendra en fait son avis en qualité de personne publique associée dans le cadre de l'élaboration du document d'urbanisme, voire lorsqu'il exercera son contrôle de légalité. Donc dit autrement, elle permet d'aiguiller la collectivité ou l'établissement public qui élabore le document sur les sujets qui appelleront la vigilance de l'État, mais sans l'engager formellement ni lier la collectivité locale. C'est fondamentalement un outil de dialogue et c'est vraiment l'intention du gouvernement dans cette ordonnance. Et on est vraiment dans le domaine de la soft law. Alors il y a bien d'autres choses à dire, mais je pense qu'on en parlera au moment des questions.
On va poursuivre alors avec vous Yves, on voit comme nous l'a expliqué Naïla que c'est un outil sans portée juridique et caractérisé donc par sa souplesse. Alors pourquoi l'avoir rendu obligatoire dans certains cas ?
Alors il faut retenir avant tout la philosophie, l'objectif. La note d'enjeu permet à l'autorité de l'État, donc aux services locaux, enfin au préfet, à la DDT, d'accompagner le porteur de documents d'urbanisme pour identifier les enjeux qu'il estime les plus prégnants, les plus stratégiques sur le territoire couvert par le document d'urbanisme, en les lui faisant connaître afin que la collectivité puisse mieux en tenir compte dans son document. De par son caractère souple, un caractère non contraignant, la note d'enjeu est un véritable outil de dialogue qu'a fait ses preuves localement l'auteur du document d'urbanisme. S'il a bien informé à temps, sans contrainte, des enjeux qui ont pu être identifiés par l'État comme étant les plus stratégiques sur le territoire, il s'avère généralement plus à l'écoute, ouvert au dialogue, et il en tient mieux compte lors de l'élaboration de celui-ci. C'est donc un enjeu qualitatif pour améliorer la qualité des documents d'urbanisme, et qu'il prenne mieux en compte les enjeux environnementaux. D'ailleurs, l'article introduit dans le Code de l'urbanisme par l'ordonnance, l'article L132-4-1, suppose qu'il y ait une demande de l'autorité locale, de la collectivité, pour que cette production soit obligatoire. Donc la collectivité est à l'initiative de la production de la note, ce qui la met en position, dès l'origine, dans une posture vraiment d'écoute, de dialogue, d'échange avec l'État, et pas forcément dans une idée de contrôle. Sinon, il ne demanderait pas une note s'il ne voulait pas se mettre dans une posture de dialogue. La note d'enjeu peut donc constituer un levier privilégié aux mains des services de l'État pour promouvoir, orienter, dans l'intérêt général, la déclinaison territoriale des politiques publiques, notamment des politiques environnementales. C'est important à l'heure où l'État doit concourir en partenariat avec les collectivités à l'atteinte d'objectifs nationaux, internationaux en matière de transition écologique. On peut parler de stratégie nationale bas carbone qu'on doit par exemple retrouver dans l'ensemble de la hiérarchie des normes des documents d'urbanisme. C'est pourquoi la DHUP a souhaité donner à ces pratiques un fondement législatif pour montrer l'importance de cet outil, tout en conservant sa souplesse qui est essentielle à son bon fonctionnement et qu'elle s'attache à la promouvoir et à favoriser son développement.
La DHUP va-t-elle développer des outils pédagogiques pour guider à la réalisation de ces notes d'enjeu et par quel vecteur, Naïla ?
Oui, effectivement, pour accompagner au mieux les services déconcentrés dans la réalisation de cette note d'enjeu, parce que c'est eux qui auront à la réaliser, la DHUP a entrepris d'élaborer un vade-mecum visant à apporter donc un support à la production de ces notes qui présente un cadre souple, évolutif et adaptable aux réalités des territoires. Il est basé sur l'expérience et les bonnes pratiques identifiées sur le terrain. On a poursuivi un peu notre démarche participative pour l'élaboration de ce vademécum, puisqu'on s'est appuyé sur 3 ateliers qui se sont tenus entre février et avril de cette année et qui ont rassemblé des représentants des services et organismes de l'État, des collectivités locales et des bureaux d'études, hein, réunissant pour l'un d'entre eux jusqu'à 130 participants simultanément. Alors j'imagine que certains de nos auditeurs y ont participé et j'en profite pour remercier encore les services déconcentrés et ceux des collectivités locales et des établissements publics de coopération intercommunale porteurs de documents d'urbanisme. Je me rappelle qu'il y avait notamment des représentants de SCOT à ces ateliers sans qui l'élaboration de ce vademécum n'aurait pas été possible. Il est donc à destination des services déconcentrés, en particulier des DTM, mais bien entendu, il est consultable par les collectivités locales et par toute personne qui s'intéresse à ces sujets. Il se veut résolument opérationnel, c'est pas une circulaire, on est vraiment sur un document opérationnel qui décline une série de fiches méthodes indicatives qui traitent notamment de l'aide à la détermination et à la définition des enjeux, de la constitution éventuelle d'une équipe projet, des étapes essentielles de la réalisation de cette note ou encore qui apportent aussi des conseils sur le moment de la réaliser et la manière de présenter cette note aux élus locaux. Alors ce vademécum, il est disponible en consultation sur le site internet du ministère de la Cohésion des Territoires sous l'onglet Planification du territoire, du site du ministère de la Transition écologique sous l'onglet Documents d'urbanisme, mais également sur le site Planifions nos territoires ensemble, qui est réactivé pour l'occasion. Et d'ailleurs, sur ce site, vous trouverez normalement dans la journée ou demain un outil supplémentaire qui est un motion design, un petit film de 2 minutes qui explique un petit peu l'esprit de cette note d'enjeu. Et enfin, ces publications font des petits puisqu'on le retrouve aussi désormais sur le site du CEREMA sous l'onglet aménagement. Bien entendu, il est sur l'intranet de nos ministères à destination des DDTN. Donc la communication faite autour de ce vademécum, notamment aujourd'hui, vis-à-vis des collectivités territoriales, notamment porteuses de documents d'urbanisme, illustre vraiment le souhait de la DHUP d'engager davantage les services déconcentrés dans une association qualitative à la planification locale. Ce rôle de l'État local est essentiel pour la bonne application concertée des politiques publiques et d'aménagement.
Pour les collectivités qui nous écoutent et puis qui prévoient la révision de leurs documents d'urbanisme, pouvez-vous, Yves, leur indiquer quand et comment demander cette note d'enjeu ? Est-ce qu'il y a un moment privilégié peut-être ? Et puis des documents à fournir ?
Alors le nouvel article L132-4-1 du Code de l'urbanisme précise que cette demande doit être formalisée par l'auteur du document d'urbanisme à l'occasion de la notification au préfet, au représentant de l'État dans le département, de la délibération de prescription, selon le cas de l'élaboration ou de la révision du SCOT ou en l'absence de SCOT du PLUI. Elle n'impose pas pour autant, ce nouvel article n'impose pas pour autant que cette demande figure dans la délibération de prescription. La note d'enjeu ouvre un processus de dialogue sans portée juridique sur la procédure d'élaboration du document d'urbanisme. Je vous conseillerais donc à nos auditeurs de ne pas faire figurer cette demande dans la délibération, mais de le faire par simple lettre accompagnant la délibération. Il n'est pas non plus prévu que cette demande soit accompagnée de pièces particulières, puisqu'en phase de prescription, il n'y a pas grand-chose d'acté. La collectivité ne fait que faire part du fait qu'elle va réviser ou élaborer son document d'urbanisme. Elle peut seulement signaler les objectifs principaux alors envisagés, pourquoi elle se lance dans une révision du document d'urbanisme, et indiquer les modalités de la concertation avec le public. Ce serait donc prématuré de joindre des pièces particulières à la demande de note d'enjeu. L'idée qu'il y a derrière le choix de formaliser la demande de note d'enjeu au moment de la délibération de prescription, donc qui est le lancement du processus d'élaboration ou de révision du document d'urbanisme, c'est de mettre les services de l'État en mesure de communiquer la note d'enjeu le plus tôt possible dans la procédure d'élaboration ou d'évolution du document d'urbanisme. En effet, pour les services de l'État, il y a quand même un temps de concertation entre services, entre les différents services au sein d'une DDT ou dans les autres services de l'État déconcentrés, qui peut nécessiter quelques mois ou maximum une année pour élaborer une note d'enjeu. Donc le plus tôt possible, c'est le mieux. Une collectivité qui voudrait même se lancer en amont de sa délibération de prescription et annoncer qu'elle compte demander une note d'enjeu pourrait le faire, ce qui permettrait aux services déconcentrés d'anticiper l'élaboration de la note d'enjeu. Donc, il peut donc bien y avoir une, de manière informelle, une information par la collectivité. À titre indicatif, une présentation de la note d'enjeu au moment de la présentation du diagnostic territorial du porteur du document d'urbanisme permettrait une mise en miroir des enjeux identifiés par le porteur du document d'urbanisme avec les enjeux portés par la note de l'État. Ça permet de faire un parallèle entre ce qui semble prioritaire pour la collectivité et ce qui semble prioritaire pour l'État. Il peut dans tous les cas être envisagé d'échanger pour déterminer la meilleure articulation entre le calendrier prévisionnel d'élaboration ou de révision du document. On imagine un rétro-planning du porteur du document d'urbanisme. Il peut en faire part au service de l'État pour permettre au service de l'État, lui aussi, de s'adapter à ce rétro-planning. On est vraiment dans l'idée d'un dialogue entre la collectivité territoriale et les services de l'État qui permet vraiment de développer l'outil de la note d'enjeu et que cet outil trouve tout son intérêt. Et donc, ça peut commencer par là, par cette information au moment de la prescription, voire en amont.
On va poursuivre sur ce sujet. Non, on a terminé, je crois. Tout a été dit. Tout a été dit, je confirme. Merci beaucoup à tous les deux, Yves, Naïla. Surtout, vous restez bien avec nous. On va maintenant répondre aux questions de nos auditeurs.
Le MAC de l'urbanisme, de l'aménagement et du logement, on répond à vos questions.
Michel, est-ce qu'on a des questions sur ce sujet de la note d'enjeu ?
On a quelques questions, mais surtout, on a nos collègues de la DGALN qui ont également posté des liens vers la note, le Vademecum sur le site Planifions nos territoires, également sur le site du ministère de la Transition écologique, et également le lien vers la vidéo sur Dailymotion.
Tout donc, est là, vous n'avez plus qu'à cliquer, c'est magnifique.
Oui. Et donc, on va prendre une première question de Cédric qui nous demande est-ce qu'il y a des recommandations en termes de nombre d'enjeux, puisque cette note d'enjeu donc sert en particulier à préciser les enjeux identifiés comme les plus stratégiques pour l'État. Donc, combien d'enjeux ?
Oui, effectivement, c'est une question qui revient souvent, hein, qu'on a beaucoup entendue dans les ateliers. Alors, on est vraiment par opposition, hein, je me permets de le dire, avec le PAC, sur l'idée de présenter 3 à 4 enjeux essentiels, hein, parmi les plus stratégiques. Hein, c'est le PAC, hein, c'est le porté à connaissance qui est là pour lister, faire l'inventaire de la réglementation. Donc, on n'est absolument pas, dans le cadre de la note d'enjeu, dans un exercice d'inventaire, mais bien dans un exercice de synthèse et d'expression, ce qu'on appelle un petit peu l'expression unifiée de la parole de l'État. Donc cette note d'enjeu opère forcément une hiérarchisation synthétique des problématiques et surtout une analyse territorialisée, hein, de ces problématiques. Donc il y a une conciliation stratégique et des choix à faire pour articuler les différentes politiques publiques et en sortir les 3-4 enjeux essentiels dans la note d'enjeu.
Alors, deuxième question de Cédric également. Du coup, comment fait-on pour déterminer ces 3 ou 4 enjeux les plus stratégiques ? Est-ce qu'il y a des méthodes ?
Alors, pour l'État, qu'est-ce qu'on entend par enjeu ? Pour l'État, un enjeu représente ce que le territoire aurait à gagner ou à perdre, selon qu'il serait tenu compte ou non dans les documents d'urbanisme de tel ou tel objectif porté par les politiques publiques. Le Commissariat général au développement durable, le CGDD, donc une direction de nos ministères, définit un enjeu comme une question qui engage fortement l'avenir du territoire, une valeur qu'il n'est pas acceptable de voir disparaître ou se dégrader, tant du point de vue des ressources naturelles que de la santé publique ou de la qualité de vie. Alors, le Vademecum développe 2 méthodes possibles, donc je vous renvoie à ce Vademecum qui est désormais en ligne. La plus développée, alors il y a une méthode AFOM qui est dans les méthodes de management de projet qui est assez connue, mais la technique vraiment, enfin la méthode qui est très utilisée déjà, c'est le diagnostic territorial partagé, donc qui est un outil qui a été développé de ces dernières années, enfin il y a même déjà quelques années, et qui est à l'origine de la plupart des notes d'enjeu aujourd'hui. L'unité départementale des Hauts-de-Seine de la DRIEAT, désormais, nous a indiqué avoir réalisé des notes d'enjeux et dire de l'État via la méthode de diagnostic partagé. Mais il y a de nombreuses DDTM, enfin de nombreux services déconcentrés qui nous ont fait part de cette méthode. Je vous invite vraiment à aller voir le Vademecum qui invite à adapter localement les méthodes selon les moyens dont dispose la DDTM. Il ne s'agit pas de faire vraiment de la surqualité, ni de faire quelque chose de, ou de rédiger un mini PLUI ou un mini SCOT. Il faut vraiment doser l'effort pour que ce soit un outil synthétique et le plus utile possible aux porteurs de documents d'urbanisme.
Michel, encore une question ?
Oui, on enchaîne avec une question de Lucie. Vous avez dit que la note d'enjeu initiale, le dialogue entre l'État et la collectivité, est-ce que le dialogue peut démarrer avant la note d'enjeu ? Est-ce que la collectivité peut être consultée par le porteur de documents en amont de la production de la note ?
Alors oui, la note d'enjeu, ça n'est finalement qu'un vecteur, hein, qu'un outil. Hein. Elle n'est pas là pour, j'allais dire, brider le dialogue lorsqu'il existe localement, lorsque les services déconcentrés et les porteurs de documents d'urbanisme ont déjà une habitude de travail de concert et en bonne entente. Ce dialogue peut tout à fait avoir lieu quoi qu'il arrive. Maintenant, l'idée de l'ordonnance sur la hiérarchie des normes, elle est de donner une valeur juridique, enfin, pas une valeur juridique, mais une existence juridique à cette note d'enjeu qui peut servir d'outil pour formaliser un peu plus ce dialogue. Mais ça reste, et c'est essentiel, un document souple sans portée juridique.
Et justement, par rapport à cette souplesse et la portée juridique, pourquoi la note d'enjeu n'a-t-elle pas été rendue obligatoire pour tous les documents d'urbanisme, hein, pour tous les PLU, tous les en particulier ?
Alors, ce n'est pas parce qu'elle n'est pas obligatoire qu'elle n'est pas autorisée. L'article vraiment L132-4-1 prévoit les cas où, si le porteur du document d'urbanisme en fait la demande, les services de l'État sont tenus de fournir une note d'enjeu, mais rien n'empêche une collectivité, même si ce n'est pas un SCOT, si c'est un PLUI couvert par un SCOT ou un PLU, ça ne l'empêche pas de faire la demande et ça n'empêche pas non plus les services de l'État de faire une note d'enjeu, même si la collectivité n'en a pas fait la demande, parce qu'aujourd'hui on est sur une pratique spontanée des services de l'État. Rien n'empêche de poursuivre ce travail-là. On n'entre pas. C'est pas parce que désormais il y a un cadre juridique qu'il contraint forcément la production de la note d'enjeu. Ça peut toujours être un acte volontaire des services déconcentrés. Alors après, il n'y a pas eu la volonté de le rendre obligatoire. C'est parce que l'intercommunalité, c'est l'échelle de portage aujourd'hui des activités quotidiennes, des politiques publiques. Qui nous semble prioritaire. C'est la meilleure échelle pour concevoir les mesures adaptées aux enjeux du territoire, tout en valorisant, renforçant la complémentarité des communes. Aujourd'hui, la vie locale s'affranchit des limites communales et ne s'arrête pas à un document qui est communal uniquement. Les activités commerciales, récréatives, les déplacements, domicile-travail, les parcours résidentiels sont des politiques qui sont déployées à une échelle intercommunale. Pour la biodiversité, la nature, c'est pareil. La frontière communale est inconnue aux continuités écologiques. Donc on est sur une complémentarité intercommunale, ce qui nous a amené à prioriser les documents intercommunaux. Pour rappel, la note d'enjeu propose un exposé qui fait état des enjeux qu'il identifie sur le territoire et que le document d'urbanisme est appelé à traduire. Ces enjeux se limitent rarement aux limites communales. C'est pour ça que nous avons voulu prioriser en tenant compte des moyens aussi qui sont ceux de l'État, pour que ce soit principalement les documents intercommunaux et notamment les documents stratégiques que sont les SCOT et que nous avons renforcé aussi dans l'ordonnance SCOT qui est parallèle à l'ordonnance hiérarchie des normes, et de PLUI en l'absence de SCOT. C'est pour vraiment renforcer cette échelle intercommunale que nous avons priorisé la note d'enjeu à l'échelle intercommunale.
Dernière question, Michel ?
Une dernière question de Chloé qui nous demande l'articulation entre cette note d'enjeu et les objectifs du zéro artificialisation nette.
Alors, effectivement, la note d'enjeu peut tout à fait aider. Alors, elle n'est pas là pour mettre en œuvre la politique du zéro artificialisation nette, mais elle est là, elle pourra être utilisée pour aider à le mettre en œuvre, hein, cet objectif devant être arbitré, hein, avec les autres objectifs des politiques publiques territoriales. Il y a des territoires où cette politique est moins prégnante, où l'artificialisation n'est pas le sujet du territoire, et où effectivement, si une note d'enjeu doit être élaborée, elle ne portera pas essentiellement sur ce sujet-là. Il y en a d'autres, en revanche, où ça sera sans doute l'un des éléments essentiels de la note d'enjeu. Alors, les feuilles de route des préfets mentionnent pour 53 d'entre elles la lutte contre l'artificialisation comme étant prioritaire. Donc, ça reste tout de même un sujet. Donc, la note d'enjeu pourra en tout cas être utilisée pour aider les porteurs de documents d'urbanisme à mettre en œuvre cette politique. Mais je ne m'étendrai pas beaucoup là-dessus, puisque je crois qu'il y a un Radio Territoria qui est prévu sur ce sujet prochainement.
En effet, on a prévu le 19 octobre une émission de Radio Territoria, une émission du MAG sur les mesures de lutte contre l'artificialisation des sols qui sont contenues dans la loi Climat Résilience.
Et pour ça, il faudra revenir vous connecter à Radio Territoria le 19 octobre à 11h, évidemment, en direct, comme beaucoup de mardis quand même. Et on parlera de ce qui est à venir dans un instant, juste le temps de remercier ceux qui étaient en plateau avec nous ce matin. Naïla Boukeloua, adjointe au sous-directeur de la qualité du cadre de vie à la direction chargée de l'urbanisme à la DGALN. Yves Joncheret, adjoint à la chef du bureau de la législation de l'urbanisme de la même sous-direction, la DGALN, et Michel Phelep, chargé de mission animation territoriale à la DGALN. Merci à tous les trois d'avoir été avec nous. Michel, les auditeurs vous donnent rendez-vous la semaine prochaine pour un numéro un peu spécial du MAC de l'urbanisme, de l'aménagement et du logement. Ce sera en direct du congrès du logement social qui aura lieu, si je ne me trompe pas, à Bordeaux, semaine prochaine pour vous retrouver pour ce numéro un peu spécial. Et puis nous, on se donne rendez-vous dans pas longtemps. Juste après.
5 octobre.
Le 5 octobre. Donc voilà, on se retrouve quasiment tous les mardis maintenant, c'est fabuleux. Je suppose que ce sera Démat ADS, voilà. Évidemment, le programme de dématérialisation, désautorisation d'urbanisme. On sera ravis de retrouver notre ami Jean-Baptiste Lannes, le directeur de ce programme, pour un nouveau numéro. Je sais que ça vous passionne tout le temps. En attendant, n'hésitez pas, vous pouvez retrouver tous les numéros Démat ADS, le numéro sur la note d'enjeu, tous les numéros, celui dont on vous a parlé également, celui du 7 juillet 2020 sur les deux ordonnances qu'on a évoquées aujourd'hui. Tout ça, c'est sur le site de Radio Territoria, sur l'appli également Radio Territoria. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à très bientôt.
Le MAG de l'urbanisme, de l'aménagement et du logement, une émission en partenariat avec les ministères de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires, à réécouter et télécharger sur Radio Territoria et sur toutes les plateformes d'écoute habituelles.